VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manelakiza en direct de Washington. Le monde aujourd'hui du mardi 26 juin 2018, édition de 18h30 temps universel. La même heure à Abidjan, Bamako et Dakar à la une ce soir. Visite historique d'une délégation érythréenne en Éthiopie pour mettre un point final à des décennies d'hostilité entre les deux voisins. Au Cameroun, 47 séparatistes anglophones en détention depuis 6 mois ont rencontré leurs avocats. RDC, le procès de Moïse Katumbi doit s'ouvrir demain à Kinshasa devant la Cour suprême. L'opposant est en exil. Deuxième forum international du logement social à Abidjan.
Nous allons travailler durant 3 jours sur la problématique liée à toute la chaîne de production de logements.
Le reportage de Ibrahim Tunkara à suivre dans la seconde partie de cette édition. La Cour suprême des États-Unis a validé le décret migratoire de Donald Trump. Mondial 2018 en Russie. Match capital pour Lionel Messi qui a déjà marqué le premier but. L'Albi Céleste doit battre le Nigeria pour se qualifier. Le Pérou, déjà éliminé, a anéanti les dernières chances de qualification de l'Australie. Et la France est en tête du groupe C après un nul face au Danemark qui valide sa qualification. Les détails tout à l'heure avec Nicolas Pina. Au Nigeria, les éleveurs Peul ont rejeté la responsabilité des attaques du week-end qui ont fait une centaine de morts dans le centre du pays. L'association des éleveurs de bétail Miyeti Ala du Nigeria, qui signifie en Fulani « Nous remercions Dieu », a déclaré que les déclarations reprises dans la presse locale qui incriminaient les éleveurs n'étaient rien d'autre que des mensonges. Le gouvernement tente d'apaiser les tensions croissantes entre communautés. Après 6 mois de détention, 47 séparatistes anglophones ont pu rencontrer des avocats commis pour leur défense. Nous sommes au Cameroun. Les précisions de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Deux avocats du cabinet Mouna et associés ont pu établir un premier contact avec les 47 personnes extradées du Nigeria depuis le 26 janvier dernier. VOA Afrique a appris ce mardi que c'est dans l'enceinte du secrétariat d'État à la Défense, un site hautement sécurisé à Yaoundé, que les avocats ont été autorisés à rencontrer les leaders sécessionnistes. De sources judiciaires, ce premier contact annonce l'ouverture d'un procès au tribunal militaire de Yaoundé qui juge les accusations de terrorisme. Cependant, certains leaders sécessionnistes pourraient bénéficier d'un non-lieu dès la fin de l'information judiciaire, a confié sous anonymat un avocat à VOA Afrique. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, l'ex-député du PDCI, Basile Gouali Dodo, a annoncé sa candidature en tant qu'indépendant à la présidentielle de 2020. Il a affirmé être le porte-étendard d'une réconciliation qui, selon lui, a échoué. Les prisonniers et les exilés de la crise post-électorale sont à 90% originaires de l'Ouest. M. Dodo a souligné que la réconciliation nationale doit partir de cette zone. En RDC, le procès de l'opposant en exil Moïse Katumbi doit s'ouvrir demain à Kinshasa devant la Cour suprême. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Le point avec Idriss Fall.
Moïse Katumbi et ses 6 co-accusés, dont un Américain, sont poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. D'après son avocat, Maître Mumba Gama, le procès doit commencer demain devant la Cour suprême. Ex-gouverneur du Katanga, en exil depuis mai 2016, M. Katumbi a été accusé d'avoir recruté et armé des mercenaires après son divorce politique avec la majorité présidentielle. Ce procès ne sera qu'une honte pour la plus haute autorité de l'État, écrivent 50 députés et sénateurs pro-Katumbi dans une lettre au président Kabila. Déjà condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière, M. Katumbi ne peut revenir en RDC sans être inquiété par la justice, a dit récemment le ministre des Affaires étrangères. M. Katumbi a pour la énième fois annoncé son retour, cette fois-ci entre le 24 juillet et le 8 août. Les dates du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle.
Idriss Fall, des experts de l'ONU qui ont enquêté sur les atrocités commises depuis 2016 au Kassai ont accusé les forces de sécurité et les milices de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ils proposent de mettre en place une politique de désarmement des milices et un processus de réconciliation pour éviter une nouvelle vague de violence. Ils ont aussi déploré un très sérieux problème d'impunité. Et des milliers d'enfants risquent de mourir de malnutrition pendant la saison sèche au Kasaï. Les évêques congolais ont appelé à une intervention rapide et massive. L'archevêque de Kananga, Marcel Madila, a prévenu le risque des morts par milliers. Poursuite des discussions à Khartoum entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar. Des détails avec Raïssa Gironde.
Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, le président Salva Kiir et son rival Riek Machar sont parvenus à un accord sur certains points dans les pourparlers de paix. Il a déclaré que ces points seront annoncés demain. L'agence Reuters rapporte que Riek Machar a demandé 48 heures supplémentaires avant de signer tout projet d'accord. Après leur rencontre la semaine dernière à Addis Abeba, les deux hommes se sont retrouvés hier à Khartoum pour tenter de mettre fin à une guerre civile fratricide. Ce conflit, depuis 2013, a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et a provoqué une crise humanitaire sans précédent. D'ailleurs, sur le terrain, un casque bleu du Bangladesh a été tué dans l'attaque d'un convoi humanitaire dans le sud du pays.
Raïssa Gironde, une délégation gouvernementale érythréenne est actuellement à Addis Abeba pour une visite historique destinée à mettre fin à des décennies d'hostilité entre les deux voisins. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le ministre éthiopien des Affaires étrangères Osman Saleh et Yemane Gebreab, conseiller spécial du président éthiopien Isaias Afewerki, ont été accueillis par le premier ministre Abiy Ahmed et des responsabilités comme le légendaire coureur Haïlé Gebrselassie. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont livrés à une guerre qui a fait quelque 80 000 morts de 1998 à 2000 en raison d'un désaccord sur leurs frontières communes. Le refus éthiopien d'appliquer une décision d'une commission soutenue par l'ONU sur le tracé de la frontière a entretenu l'animosité entre les deux pays. En juin 2016, suite à un accrochage entre les deux armées, les Érythréens ont affirmé avoir tué plus de 200 soldats éthiopiens. L'Éthiopie avait alors rappelé à son voisin qu'elle avait la capacité de mener une guerre totale. La décision de M. Abiy de tourner la page de ce conflit en respectant l'accord de paix d'Alger a été saluée par la communauté internationale. Cependant, elle a été accueillie avec une défiance par les habitants de la ville symbole de Badme, accordée à l'Érythrée en 2002. L'Éthiopie n'a pas indiqué quand ses troupes quitteront cette localité, dont les habitants craignent de se retrouver sous la coupe de leur ancien ennemi.
Le gouvernement libyen d'Union nationale a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à bloquer toute tentative de vente illégale de pétrole par les autorités rivales de l'est du pays. Le maréchal Khalifa Haftar a annoncé ce lundi que toutes les installations sous contrôle de ses forces seront remises à la compagnie pétrolière du gouvernement parallèle basée dans l'est.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour suprême des États-Unis a validé le décret anti-immigration de Donald Trump et lui offre une victoire définitive à l'issue d'une âpre bataille judiciaire autour de cette mesure controversée. La décision prise à la majorité de 5 juges contre 4 entérine ce décret qui interdit l'accès au territoire américain de façon permanente et les ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans. Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, a été reçu aujourd'hui à Rome par le premier ministre italien Giuseppe Conte et la ministre de la Défense Elisabetta Trenta. Madame Trenta a indiqué avoir discuté des principaux dossiers internationaux comme la Libye, l'Afghanistan, l'Irak, le Niger et le Liban. Les deux interlocuteurs ont confirmé l'engagement commun dans la lutte pour la sécurité internationale. Madame Conte a laissé présager sur Twitter un prochain déplacement aux États-Unis pour rencontrer le président américain. Un cargo danois qui transporte 108 migrants et secouru vendredi au large de la Libye a été autorisé à accoster en Sicile. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est l'heure du Mondial 2018 en Russie. Ce soir, Nicolas Pinon qui donne le compte rendu de la journée avec l'Argentine qui mène déjà un but à zéro.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Aucun suspense, un match ennuyeux. Voilà le scénario de ce match France-Danemark 0-0 entre les deux équipes qui se qualifient pour les huitièmes de finale après la défaite 2-0 de l'Australie face au Pérou. La Croatie, indéboulonnable leader du groupe D, affrontera donc le Danemark en huitièmes de finale. Les Croates, leader du groupe D, affrontent en ce moment même la valeureuse équipe d'Islande 0-0. La Croatie qui joue sans Ivan Rakitic et plusieurs cadres qui étaient sous la menace de suspension, mais avec le meneur de jeu Luka Modric. La France, elle, ne connaît pas encore son adversaire. Il s'agira du vainqueur certainement du match Nigeria-Argentine qui a débuté depuis 18h temps universel. Lionel Messi a inscrit un premier but dès la 14e minute de jeu. On joue actuellement la 40e minute de jeu, toujours 1-0 pour l'Argentine. Si on en reste là, c'est l'Argentine qui est qualifiée. Et le match à suspense hier soir dans le groupe B, il a beaucoup été question d'assistance vidéo à l'arbitrage. Le Maroc a réalisé son meilleur match et aurait mérité mieux qu'un match nul de partout face à l'Espagne. À Kaliningrad, ce sont les Lions de l'Atlas qui ont ouvert le score sur une grosse erreur de la défense et Khalid Boutaïb qui marque le premier but. Isco égalise dans la foulée sur un magnifique service d'Iniesta. Au retour des vestiaires, l'Espagne domine mais ce sont bien les Marocains qui prennent le devant grâce à un but sur corner d'En-Nesyri. Hélas, le Maroc ne parvient pas à garder cet avantage et c'est Aspas qui remet les deux équipes à égalité. On va écouter Mehdi Benatia, le joueur marocain, qui s'est exprimé après la rencontre.
Comme le reste de la Coupe du Monde, on a vu une grande équipe, on a vu un grand pays, on a vu beaucoup de bonnes choses. Comme j'ai dit au début, les Marocains peuvent être fiers de cette équipe. Nous, en tout cas, on est fiers de nos fans, de nos supporters. Ils étaient encore une fois, on était à domicile ici. Mais voilà, j'ai pas envie de faire trop de polémiques, on n'a pas envie de... C'est une belle compétition, il faut la respecter. Malheureusement, je pense que notre pays n'a pas été respecté à sa juste valeur durant cette compétition. Et c'est un peu frustrant. Après, l'équipe d'Espagne, elle a des grands champions. On leur souhaite le meilleur, mais ça a été pareil un peu durant toute la Coupe du Monde. On a l'impression qu'on méritait mieux et qu'on n'a pas été très juste avec nous, surtout contre le Portugal. Mais c'est comme ça, il faut positiver et on leur souhaite bonne chance aux équipes qui restent. Et nous maintenant, il va falloir rester sur la continuité avec ce groupe de qualité, avec un très grand entraîneur, un très très grand entraîneur comme Hervé Renard qui a su depuis le début nous faire qu'on se transcende pour lui. Et chaque joueur aujourd'hui était content de jouer pour lui. C'est vraiment l'homme fort. Donc voilà, c'est lui aussi qu'il faut remercier et puis voilà.
Voilà Mehdi Benatia, le joueur marocain. L'Espagne termine première du groupe après le match nul un but partout du Portugal face à l'Iran. Là aussi, il y avait beaucoup et il a beaucoup été question de la vidéo. Cristiano Ronaldo a raté un pénalty, mais score final un but partout entre les deux équipes. À suivre demain dans le groupe E, le Brésil de Neymar et Coutinho face à la Serbie pour une finale à suspense. La Suisse est bien placée pour se qualifier en cas de victoire contre le Costa Rica, déjà éliminé. Dans le groupe F, le Mexique a besoin d'un nul contre la Suède pour terminer premier du groupe. Les Suédois doivent impérativement l'emporter. Les champions du monde allemand affrontent la Corée du Sud pour éviter une élimination historique. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonsoir. Qui ne se souvient de la célèbre boutade de Gary Lineker? Le buteur anglais des années 80-90. Le football est un sport qui se joue en 11 et où l'Allemagne finit toujours par gagner. En fait, la vedette britannique rendait hommage à justice, à l'opiniâtreté, à la force mentale d'une équipe qui ne s'avoue jamais vaincue. Cette boutade, une nouvelle fois prémonitoire, a repris tout son relief au lendemain de la victoire miraculeuse de l'Allemagne dans le match de la survie samedi contre la Suède. Et quand l'Allemagne gagne sur le fil, généralement, elles montent en puissance et réajustent les tirs. Or, les Allemands savent maintenant que seule une victoire de 2 buts d'écart peut garantir à l'absolu une qualification. La possibilité de se retrouver avec 3 équipes à 6 points n'étant pas écartée, au cas où la Suède venait à gagner contre le Mexique. Pour toutes ces raisons, le troisième match contre la Corée sera donc pris très au sérieux par une équipe jamais aussi efficace et concentrée que lorsque l'objectif est aussi clair. Pourtant, ce match Allemagne-Corée du Sud ressemble, à s'y méprendre, au match piège tant redouté. Tout d'abord, dans une opposition de style parfaite, les Asiatiques ont à démontrer leur vivacité habituelle et leur tendance à bien finir les rencontres. Par ailleurs, l'axe défensif allemand, la véritable rampe de lancement de ses orientations offensives, vient de perdre son patron Bautin, suspendu après l'absence pour blessure de son acolyte Hummels, si utile aussi dans les jeux aériens. Et si l'histoire de David et de Goliath se répétait une fois de plus, réponse ce mercredi au magnifique stade de Calvin. À bientôt.
Merci Jules Valentin. Et voilà, toujours l'Argentine qui mène 1-0 face au Nigeria.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eric Manilakiza de retour avec vous. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Ouverture aujourd'hui au Tchad du procès de l'ex-gouverneur de la région du Logoné oriental et de ses complices dans l'affaire de tentative d'assassinat de Maître Doumra Manassé et ses clients. Qui ont été relaxés par la justice de Doba. Le point avec notre correspondant André Kodmajinga.
À l'ouverture de l'audience d'instruction, les avocats de la partie civile ont déploré le fait que le commandant de la Légion de la gendarmerie de Doba, pièce maîtresse dans cette affaire, soit toujours en cavale alors qu'il a été auditionné sur procès verbal avec les 5 autres prévenus par une institution judiciaire. Répondant aux questions du président du tribunal, Adam Nouki Sharfadine a déclaré, je cite, « J'agis en tant que garant des institutions régionales pour garantir la vie de Omar Magadi, chef de la communauté Peul, arrêté avec des armes de guerre puis relaxé par la justice. » Pour lui, ce type est un coupeur de route et sa libération risque de troubler à l'ordre public, tranche-t-il. Un incident est survenu au moment où la parole a été donnée à Maître Doumra Manassé, l'auteur de la plainte, pour s'expliquer des faits. Il en a profité pour dénoncer la célérité avec laquelle le procès se déroule. Le premier substitut du procureur de la République, Nedo Gérard, pique une colère sans pareil et demande au président du tribunal de suspendre l'audience. Aussitôt dit, aussitôt fait. Réaction de Maître Kagome Alain, l'un des avocats de la partie civile.
Même si le procureur a changé de camp, je crois qu'il est parti au procès comme la partie civile également. Pour nous, ça participe aux manœuvres d'intimidation, de bâillonnement, qu'on laisse les gens s'exprimer librement. Et nous, on ne compte pas marcher au rythme du procureur de la République. Il n'a pas la police d'audience.
Pour Maître Ndirandi Laguerre Dionro, toujours de la partie civile, si Omar Magadi est en vie, qu'il soit présenté à la prochaine audience.
S'il est au renseignement général ou bien à l'ANS, en quoi ça peut être impossible au parquet de demander qu'on amène cette personne, même si on veut encore le garder, qu'on l'amène à l'audience sous escorte, et quand on aura fini de l'écouter, c'est ça, on peut le ramener. Parce que s'il n'est pas là, qu'est-ce qu'on est en train de nous cacher? Est-ce qu'il a envie? Mais s'il a envie, pourquoi c'est aussi compliqué de le faire comparaître? S'il est mort, mais ça change toute la donne.
À la reprise, le débat tourne autour de la demande de la mise en liberté provisoire pour des raisons de santé du prévenu Adam Nouki Sharfadine, introduite séance tenante par les avocats de la défense. Le président du tribunal vide la saisine sur siège en rejetant la demande et renvoie le dossier au 28 juin prochain pour les plaidoiries. Maître José Pamkere, l'un des avocats de la défense, se dit ne pas être surpris par la décision du tribunal.
Cette décision de rejet, de mise en liberté provisoire de l'ex-gouverneur, ne m'étonne pas en tant qu'avocat. Et je comprends les magistrats dans cette prise de décision. J'espère peut-être que le juge pourra apaiser l'esprit de la partie civile dans sa souveraineté à préférer rejeter cette demande de mise en liberté provisoire dont nous n'entendons pas interjecter appel pour la simple raison que la cause est renvoyée au 28 pour être plaidée au fond.
André Kodmadigar Ndiamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndiamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Côte d'Ivoire, le deuxième forum international du logement social économique s'est ouvert ce lundi. C'était hier à Abidjan, autour du thème « Relever les défis du logement en Afrique ». Cette rencontre se poursuit jusqu'à demain mercredi. Voici un reportage signé Georges Ibrahim Tonkara.
Relever les défis du logement en Afrique, c'est le thème de cette deuxième édition du Forum international du logement social, économique et standing. Un forum qui réunit les professionnels du bâtiment et de l'aménagement. Il s'agit notamment des promoteurs immobiliers, des architectes, des urbanistes, des géomètres, des institutions financières et autres fabricants de matériaux. Sur les enjeux de ce forum, les explications de Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire.
Nous allons travailler durant 3 jours sur la problématique liée à toute la chaîne de production de logements, du foncier, le financement, la fiscalité, la formation des jeunes. La volonté politique est là. Il appartient aux opérateurs économique privée de se faire accompagner par l'État et de produire des logements en masse pour loger évidemment le maximum, en tout cas, d'Ivoiriens.
Les participants venus de plusieurs pays dont la Turquie, l'Espagne, l'Égypte, le Burkina Faso, le Bénin et la Côte d'Ivoire, ce forum est une belle opportunité d'échange. On écoute ce participant béninois.
La décision du gouvernement d'imposer aux certaines structures bancaires d'octroyer des crédits à un taux de remboursement de 5% pour pouvoir faciliter l'acquisition des logements en Côte d'Ivoire. C'est de très belles innovations. La réalité ivoirienne est tout à fait différente de la réalité béninoise. La Côte d'Ivoire a pris le devant sur le Bénin. Parce qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui sont très actifs, alors qu'au Bénin, c'est encore inactif.
Pour cet autre participant ivoirien, le géobéton peut être une solution à la problématique du logement social en Afrique.
Nous devrons construire des logements sociaux, mais pour pouvoir construire, il faut des matériaux de qualité. Nous avons, au niveau du laboratoire, depuis des années, mis en œuvre le géobéton. Certainement, le géobéton pourrait être une solution pour rendre les coûts abordables aux économiquement faibles.
Les logements sociaux, une réponse aux quartiers précaires et au phénomène des inondations, selon Sédiki Sangaré, président de la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire.
Vous comprenez bien que ceux qui sont dans les quartiers précaires, c'est ceux évidemment qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas la capacité financière d'avoir un logement. C'est pourquoi nous encourageons évidemment le processus du lancement du programme des logements sociaux pour pouvoir reloger tout cela, afin que tout Ivoirien puisse avoir un toit.
Avec plus de 5 millions d'habitants, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, fait face depuis quelques années à un grand déficit en logement. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
L'Algérie a expulsé plus de 10 000 migrants africains depuis le début de l'année. Certains sont abandonnés dans le désert près de la frontière avec le Niger. Idriss Fall fait le point avec Giuseppe Lopresti, le représentant de l'OIM au Niger.
L'OIM au Niger a remarqué une augmentation sur la route de l'Algérie, venant de l'Algérie, mais aussi vers l'Algérie, des migrants en transit. Donc depuis septembre 2017, environ 10 000 personnes de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont été retrouvées dans le désert, sauvées par des missions de sauvetage de l'OIM avec le gouvernement du Niger. Tout le monde est arrivé en conditions très difficiles parce qu'ils ont marché dans le désert déhydratés et en conditions psychologiques très préoccupantes.
Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux? C'est parce qu'ils ont été expulsés par l'Algérie ou bien ils se sont perdus eux-mêmes dans le désert?
Il y a trois différentes situations. Le cas plus fréquent, ce sont les migrants qui ont été abandonnés dans le désert par les autorités algériennes. C'est ça l'histoire que la majorité des migrants nous ont racontée. Ils étaient dans les chantiers en Algérie ou bien dans les différentes villes d'Algérie. Et à un moment donné, ils ont été transportés vers la frontière du Niger et déposés à environ 10-15 kilomètres de la frontière et après ils ont marché vers le Niger. La deuxième situation sont des migrants qui étaient en transit vers l'Algérie et qui ont été stoppés juste après la frontière. Et il y a un troisième cas, des migrants qui étaient même en Libye et qui sont rentrés au Niger à travers l'Algérie, ont payé des transporteurs pour rentrer au Niger vu l'impossibilité de traverser la Méditerranée et de rester soit en Algérie ou dans les autres pays.
Et qu'est-ce qui va se passer avec ces personnes-là qui sont ramenées au Niger?
Depuis le début de l'année, l'OIM a facilité des retours volontaires d'environ 9300 personnes. Donc, elles sont rentrées déjà dans leur pays d'origine. On a bien travaillé avec les services consulaires de toutes les ambassades. Ce sont des projets qui sont financés par les fonds fiduciaires de l'Union européenne et certains pays membres de l'Union européenne aussi. Il y a encore environ 1000 migrants qui sont avec nous à ce moment. Dans les différents centres de l'OIM au Niger, il y a 6, donc 3 dans la région d'Agadez et 3 à Niamey. Pour les migrants qui sont avec nous en ce moment, on est en train de suivre toute la procédure pour faciliter le retour sur base volontaire. Mais il y a aussi des cas de protection qui doivent rester un peu plus ici au Niger. Victimes de traite, mineurs non accompagnés et migrants qui sont malades ou qui ne sont pas en condition de voyager à ce moment.
Giuseppe Lopresti, représentant de l'OIM au Niger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En RDC, l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée le 8 mai est en phase de stabilisation selon les autorités. Aucun nouveau cas n'a été signalé ces derniers jours. Le point avec notre envoyé spécial à Kinshasa, John Lindon.
Pour le gouvernement congolais, la situation semble se stabiliser quant à l'épidémie d'Ebola. En effet, aucun nouveau cas n'a été confirmé depuis plus de deux semaines, selon le titulaire de la santé à Kinshasa.
Le 6 juin, nous n'avons pas eu de nouveaux cas confirmés. Donc ça, c'est une situation qui est très bonne. Et alors, par ailleurs, en fait, nous avons eu au total 38 cas confirmés. 18 décès probables. Nous avons eu 28 décès au total et parmi ces décès, donc nous avons eu 14 décès parmi les cas confirmés.
Ces résultats sont le fruit des efforts consentis à la fois par les autorités de Kinshasa et les partenaires internationaux. Ils sont aussi le fait de l'introduction dans la lutte contre l'épidémie d'un vaccin expérimental dont le rôle s'est avéré crucial.
Le vaccin nous a permis en fait de casser très rapidement la chaîne de transmission, surtout en vaccinant les contacts et les contacts des contacts, nous sommes parvenus à casser la chaîne de transmission.
Malgré ces résultats, des questions demeurent sur ce vaccin, notamment sur ses possibles effets secondaires. Toutefois, les autorités rassurent.
Nous n'avons pas observé d'énormes effets secondaires majeurs par rapport à ce vaccin. Moi-même, j'ai été vacciné et donc je n'ai pas eu d'effets secondaires majeurs.
Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'Ebola en RDC. Le pays semble avoir acquis une expérience aujourd'hui reconnue dans la gestion de telles épidémies.
L'élément le plus important, c'est d'avoir un nombre limité d'agents sur le terrain qui agissent, qui collaborent sous le leadership du gouvernement. C'est vraiment l'élément le plus important parce que lorsqu'on a beaucoup d'agences sur le terrain et qu'il n'y a pas de coordination, il y a vraiment le risque d'avoir un chaos sur le terrain.
Pour le moment, le chaos semble avoir été évité, en particulier ici à Kinshasa, où beaucoup craignaient qu'Ebola n'arrive et se propage. John Lindon, VOA Afrique, Kinshasa.
Rester un morceau de Lucie Naïs Jean que nous propose Lionel Lunanira Gahima qui assurait la mise en onde à la console, Bill Barber, Eric Manirakiza à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de votre écoute. Eh bien, faites ce que vous pouvez là où vous êtes, avec ce que vous avez. C'est la clé pour réaliser votre rêve. Il peut y avoir des éclairs et des orages sur votre chemin, mais sachez qu'il ne peut pas y avoir toujours de la pluie. On reste en contact sur Facebook et sur votre site internet bureauafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Agréable soirée à vous tous.